Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Les 24 et 26 novembre prochains auront lieu les élections du futur bâtonnier de Paris ainsi que des membres du Conseil de l'Ordre. Alors vous le savez, Fleur d'Avocat n'est pas un podcast dédié au petit monde des avocats qui gravitent autour des institutions représentatives, mais le fait est qu'à Paris, seul un avocat sur quatre vote aux élections ordinales. Et il me semble que c'est peu pour le représentant de la moitié des avocats de France, et une personnalité d'ailleurs qui pèse aussi au Conseil national des barreaux, qui représente, lui, tous les avocats de France. Donc je connais, j'entends et je partage bon nombre des critiques faites aux institutions représentatives de la profession, en particulier celles faites au barreau de Paris, qui est le barreau auquel j'ai moi-même été inscrite. Mais j'ai tout de même envie de croire qu'il est plus facile de demander des comptes aux élus sur leur travail quand ils ont été élus par un nombre conséquent d'électeurs. Pour vous encourager à voter donc, et peut-être même pour vous aider, puisque je conçois qu'il puisse être difficile de se faire une idée quand on ne connaît pas les candidats, eh bien je vous propose de les rencontrer dans une interview à la sauce Fleur d'Avocat. Difficile d'éluder complètement des propos plus généraux relevant de la campagne, puisque ça fait quand même partie d'eux et de leur vision de la profession. Néanmoins, ils ont tous joué le jeu de parler d'eux et de leur parcours avec, il me semble, beaucoup de sincérité. Aujourd'hui, place aux interviews de Julie Couturier et de Clotilde Lepetit. Julie est avocate au barreau de Paris depuis 1995 et elle pratique le droit de l'exécution et de l'immobilier. Ancienne membre du Conseil de l'Ordre, elle est aujourd'hui candidate à la fonction de bâtonnière du barreau de Paris aux côtés de Vincent Nuret. Clotilde est avocate au barreau de Paris depuis 2005, ancienne secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre et aussi ancien membre du CNB. Elle pratique le droit pénal des affaires et le droit pénal de l'environnement et se présente comme vice-bâtonnière auprès de Xavier Autain. J'espère que ces interviews vous plairont et surtout, si vous êtes inscrit au barreau de Paris, eh bien, votez pour qui vous voulez, mais votez. Un grand merci à Tim Afredo pour son avis sur Apple Podcasts et je lui envoie d'ailleurs plein de force et de courage pour la reconversion de policier vers avocat qu'il entame et qui s'annonce encore un petit peu longue. Mais on s'accroche, et on s'accroche notamment en écoutant des interviews de Fleur d'Avocat. Vous aussi qui écoutez le podcast, laissez des étoiles et un avis pour dorloter la visibilité de Fleur d'Avocat sur les plateformes de distribution. Je vous en suis reconnaissante. Une très bonne écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour Clotilde Lepetit.
Bonjour.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci de m'offrir une forme de tribune.
Alors Clotilde, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Oulala, je suis même pas sûre de pouvoir encore répondre à la question.
On va chercher.
Oulala. C'est probablement très intime et très personnel, voire peu rationnel. J'ai fait des études de droit uniquement pour ne pas me fermer de porte et parce que je savais que tout ce qui était de l'ordre du scientifique ne m'était pas accessible. Au fur et à mesure de mes études de droit, probablement impressionné ou quelque chose qui allait pas.
Qu'est-ce qui n'allait pas ?
J'étais à la faculté d'Assas et je trouvais les jeunes avec lesquels j'étudiais soit trop impressionnants, soit arrogants. C'est-à-dire, je trouvais que parfois ils exprimaient sans même s'en rendre compte le fait de faire partie des classes dirigeantes futures de ce monde, et puis le fait de, comme si avec des mots en droit, ils pouvaient tout appréhender, tout savoir, tout comprendre. En fait, ça manquait de doute, et comme moi, j'étais remplie de doutes, ça me fragilisait beaucoup. Donc, je ne voulais plus être avocate ni rester dans le droit. Au fur et à mesure où j'ai avancé, du coup, j'ai fait un an dans la mode. J'ai travaillé dans un cabinet de tendance.
Alors, à quel moment ?
Juste avant de rentrer en DEA, mais m'apercevant du monde du travail et du monde de la mode, je me suis dit, tiens, je vais quand même faire mon DEA de droit, parce que c'est tout de même un lieu où on va me parler bien.
Donc vous terminez 4 ans de droit.
Oui.
La
au
matière...
cours desquels je me dis que je ne vais pas être avocate, en tout cas, et je fais du droit des affaires et du droit pénal.
Et donc, il y a cette histoire d'ambiance et d'environnement qui fait que vous vous y retrouvez pas trop.
Oui, mais c'était peut-être dû à un complexe qui m'est beaucoup plus personnel.
Sûrement.
Qui a une façon de regarder les autres qui vaut. Vous voyez, c'est pas.
Ouais. Voilà. Et pourquoi la mode?
Je crois que je cherchais tellement à m'échapper que j'ai tenté d'envisager tout un tas de choses qui me plaisaient comme ça. Du coup, je suis allée dans un cabinet de tendance travailler pendant quasiment un an.
Mais comment est-ce que vous avez été recrutée dans un cabinet de tendance alors que vous veniez d'une fac de droit ?
J'ai fait un stage l'été au cours duquel après j'ai transformé en stage professionnel pendant mon DEA. Voilà. Qui m'a permis de découvrir.
Vous avez fait les deux en même temps, en fait, le DEA droit des affaires.
Non, le DEA de droit de l'environnement.
DEA de droit de l'environnement.
Ouais, l'eau, l'air, la vie, tout ça.
Ouais. Mais non, mais je comprends. les installations classées.
Voilà, oui, exactement.
Et donc vous faites ce stage en droit de l'environnement en même temps que vous faites du coup que vous travaillez
que
dans
je travaille dans
tendance.
Un cabinet de tendance qui vendait en fait des cahiers de tendance à des maisons de couture de mode voilà.
C'est quoi votre travail? C'est de faire des paperboards des.
Mais moi comme je découvrais le métier finalement j'étais une petite main au milieu des créateurs, des artistes et des juristes et des commerciaux. Donc je en fait j'étais vraiment une petite main. C'est juste un milieu qui m'a semblé, enfin le cabinet où je travaillais m'a semblé hostile. J'y étais assez mal menée et peu considérée. Et j'ai eu à ce moment-là comme une envie, mais de survie, de retourner aux études, puisque là, les professeurs, un, me parlaient de choses qui finalement étaient intelligentes,
donc,
et deux, me parlaient avec respect. Voilà.
Et donc, on abandonne la mode, on retourne aux études de droit.
Au DEA. Et puis quand même, je suis toujours aussi complexée probablement, ou névrosée, enfin peu importe. Et je me dis, mais bien sûr que non, je ne serai ni avocate ni autre. Donc je passe le concours d'Instit.
Ok. Pourquoi Instit ?
Parce que je cherche un endroit où je peux être heureuse, qui a du sens dans la société dans laquelle je travaille. Je veux pas avoir une vie de bureau qui manque de sens. Enfin, le temps où je vais travailler, c'est un temps de ma vie. J'en ai qu'une. Je sais pas ce que j'emporte après dans ma tombe. Je veux que chaque chose que je fais ait du sens.
C'est sûr qu'entre les carnets de tendance et
ouais. Les carnets de tendance, ça m'a vite vacciné. Hein. C'était manifestement une erreur de casting en ce qui me concernait. C'est-à-dire, je me suis aperçue que je pouvais aimer potentiellement faire une vitrine ou un magasin comme consommatrice, mais c'était bien tout.
Et du coup, un site, vous avez le concours tout de suite?
Je suis prise sur liste complémentaire et je rentre directement dans une classe de CP. Et là, je me retrouve à apprendre à lire et à écrire à des enfants. C'est pas rien.
Ouais.
Alors attendez. Ce qui me prend.
Donc vous apprenez à lire à des enfants.
Oui, et pour le coup, c'est quelque chose qui m'enchante. Et un exercice dans lequel je suis très heureuse. J'ai un souvenir vraiment extraordinaire de la vie de la classe que j'ai eue, qui était d'ailleurs rue Joseph de Metz dans le 18e. Et quand à la fin de l'année, vous avez un tout petit qui... J'ai d'autres anecdotes gracieuses et de moments dont je me souviendrai toute ma vie, mais à la fin de l'année, vous avez une petite carte postale avec un gamin qui vous écrit avec sa plus belle plume « Merci de m'avoir appris à lire ». Waouh ! Vous vous dites que vous avez fait un sacré truc.
Et vous venez d'être ému. Qu'est-ce qui vous a ému dans le fait d'évoquer le CP et le fait d'enseigner à des enfants à lire et à écrire ?
Alors moi, je crois que je suis une émotive de toute façon. Enfin, je crois qu'on est tout entier, c'est-à-dire qu'on peut réfléchir et maîtriser ses propos tout en vivant les choses et en les. Ben alors par ailleurs, moi, je crois que je suis une émotive. C'était un moment magnifique que j'ai aimé, que j'ai quitté, auquel j'ai renoncé plus qu'autre chose. C'est-à-dire que ça me manque encore un peu. J'aime transmettre. J'aimais bien les gamins, qui étaient à un âge à la fois éponge intellectuelle et capable d'accéder à des très belles notions, et qui avaient, parce qu'en CP, c'est cet âge-là, la spontanéité gracieuse qui permettait de faire une forme de poésie incroyable de la vie, quoi. Mmh. Voilà.
Et vous dites que vous y avez renoncé puisque vous l'avez quitté. Au bout de combien de temps et pourquoi ?
Alors, j'ai enseigné 2 ans. J'ai ensuite fait l'IUFM.
Donc, l'Institut.
L'Institut universitaire de formation des maîtres.
Très bien.
Voilà. Là, en revanche, je me suis beaucoup ennuyée.
Attendez, on n'a pas. Donc, vous avez été institutrice dedans 2 ans.
Ouais.
Et vous dites que vous avez renoncé.
J'ai renoncé en ce sens que, en fait, pendant l'été, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats où j'ai découvert le pénal.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vous étiez paumée, en fait.
Je me cherchais, oui, clairement.
Ouais. Mais il n'y a pas de mal, mais.
Non,
du droit, la mode.
Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui pouvait me convenir. Je ne savais pas dans quoi je pourrais être heureuse. Oui,
donc,
oui.
Ça veut dire que quand vous étiez institutrice au CP, vous êtes quand même dit non, mais il y a le droit et j'ai envie de faire un stage dans un cabinet. Parce que ça reste des démarches quand même à entreprendre.
Ouais,
de
ouais, c'est-à-dire que je voulais pas être désinsérée. Et je m'étais inscrite à l'Institut d'études judiciaires. Donc, en fait, j'allais passer le CRFPA, quoi qu'il arrive. Et puis j'ai fait un stage l'été dans un cabinet chez un pénaliste qui m'a bouleversée aussi. Manifestement, je fonctionne par émotion et qui a donné, pour le coup, du sens au droit que j'avais appris à l'école. Enfin, à la faculté, pardon.
Ouais.
Qui m'a permis de prendre la mesure physique et très humaine de faire du droit. Et puis, le droit pénal aussi, c'était pour moi un lieu où le doute pouvait être mis en valeur. Pouvait être mis en valeur.
Oui.
C'est une question de liaison.
Non, c'est, on sent la maîtresse d'école qui est de retour.
Et qui fait des fautes, voyez-vous.
Mais qui les corrige, c'est le principal. Mmh. Donc 2 ans instit, entre les 2 stages de pénal, il y a l'UJ.
Et je passe mon CRFPA pendant que je suis instit.
Passage du CRFPA. Donc en fait, ouais, quand vous étiez instit, vous vous projetiez pas particulièrement instit, quoi.
Je voulais juste, en fait, mais alors là, c'est vraiment. J'ai voulu passer le CRFPA, mais considérant que comme j'étais instit, je n'avais pas vraiment le temps de bien réussir et de bien travailler pour passer cet examen, j'avais l'impression, je m'étais construit psychiquement les excuses de l'échec. Et donc, ça a été en fait plus facile pour moi de passer le CRFPA comme ça, que si je l'avais passé de façon plus confortable. Parce que je crois que j'étais un peu névrosée. Enfin voilà, chacun ses complexes. J'étais très angoissée par mes propres ignorances et j'étais très très inquiète de mes manquements. Je vous avoue qu'au fur et à mesure de la vie, qui finit par parfois être un compliment quand même, je me rassure. Deux, je me complais pas dans mes complexes. Et trois, quand je me compare, je me rassure un peu quand même.
Ouais. Et donc, l'IUFM, c'était quand ?
Je pourrais plus vous dire l'année, mais c'était il y a bien 15 ans.
Enfin. Non, mais je veux dire, c'était après Instit, oui. Pendant le CRFPA,
ouais, ouais.
Pendant...
En fait, j'ai eu mon CRFPA avant, simplement, je n'ai pas intégré l'école du barreau tout de suite.
Vous avez
j'ai attendu
suivi
un peu.
Deux chemins
oui,
en parallèle.
Oui, je voulais voulais m'offrir... le choix jusqu'au bout. Donc j'ai fini mes diplômes et l'IUFM, j'ai fait un an de formation avec des stages. Des stages, je les ai aimés. La formation, je l'ai moins aimée.
Ouais, c'est intéressant ce parcours en fourche avec les deux voies qui se construisent en parallèle et cette possibilité de faire.
Je trouve que la liberté, c'est merveilleux et je me battrai pour elle évidemment, mais. C'est aussi, à titre personnel, parfois une grosse responsabilité. Et puis, le faire des choix, c'est aussi renoncer, c'est difficile de renoncer. J'ai du mal à renoncer probablement.
Ouais, je comprends.
Voilà, et le choix, c'est la responsabilité de ce qui va se passer après. Donc, en fait, c'est important.
Moi, je dis à mes clients que choisir, c'est préférer.
Voilà.
Je trouve que ça change un peu la perspective, mais ouais, ça reste pas quelque chose de facile. Et à quel moment est-ce que vous avez fait ce choix, du coup, avec ces deux possibilités en poche, en étant allé au bout des deux parcours?
Ben, une fois que je suis allée au bout des deux parcours et que j'avais mes diplômes des deux côtés, j'ai pris une disponibilité au sein de l'éducation nationale. Mmh. J'ai par ailleurs sollicité la possibilité d'être avocate, puisqu'il y a une incompatibilité entre le fait d'être fonctionnaire et le fait d'être libérale. Et je savais que pendant un certain temps, je ne pouvais pas agir contre l'éducation nationale. Vous voyez, les incompatibilités, ouais. Voilà. Et je suis rentrée dans la profession d'avocat durant ces disponibilités que j'ai fait renouveler pendant 10 ans, en fait, chaque année.
Donc voilà. Chaque année, c'était à nouveau un choix.
Une disponibilité pour convenance personnelle que je renouvelais, mais c'était cette façon de renouveler, c'était aussi une façon de me garder le filet institutrice au cas où je parviendrais pas à réussir dans la profession d'avocat ou à un moment de ma vie qui ferait que j'aurais envie de changer. Je voulais m'offrir la possibilité de réévaluer les choses et je me suis offert ça pendant 10 ans. Et du coup, j'ai envie
c'est
de dire...
C'est génial.
Ouais, en fait, ce qui est génial...
C'est que vous avez choisi la profession d'avocat tous les ans.
J'ai choisi 10 fois d'être avocate.
Ouais.
Ouais. Et ça, c'est... Ça, en fait, c'est merveilleux.
C'est un énorme luxe. Ouais. Ouais. On devrait tous choisir tous les ans ou tous les 6 mois.
Ouais, c'est vrai que je me suis offert ça, quoi. Ouais.
Est-ce que... comment s'est passé donc, parce qu'il y a eu ce stage chez ce pénaliste, stage d'été, mais ensuite, quelles ont été vos autres premières expériences professionnelles
Alors, j'avais donc ce parcours un peu atypique. J'avais en plus été militante au sein de Ni Pute Ni Soumise. J'avais milité avec Samira Bellil, qui était... l'auteur, un des premiers auteurs, une fille des quartiers qui avait écrit sur l'enfer des tournantes. Bon, j'avais vécu des choses assez fortes et c'était chouette, sauf que ça me donnait un parcours suffisamment atypique et pour que je ne trouve pas de collaboration en fait. C'est-à-dire que mon parcours était chouette dans les dîners en ville, mais les avocats pénalistes avaient un peu peur d'une avocate militante, probablement comme collaboratrice. Et
surtout militante féministe, c'est dur.
Par ailleurs, je sais pas. En tout cas, je pense que l'aspect militant les inquiétait un peu, comme si j'allais être revendicatrice ou peu malléable. Je sais pas. C'est ce que j'ai imaginé. On ne m'a rien reproché, mais je trouvais pas de collab. J'avais pas de réseau particulièrement. J'ai donc trouvé une collaboration comme avocate au sein des services ordinaux de l'ordre, c'est-à-dire que j'ai passé un entretien avec la directrice de la déontologie. Que j'ai eu et qui m'a mise comme assistante en déontologie auprès d'un membre du Conseil de l'Ordre. Donc, j'instruisais les dossiers en incompatibilité, en secret, et je rendais des avis qui, évidemment, étaient contrôlés, vérifiés et signés par le membre du Conseil de l'Ordre qui lui, était en charge de ces choses-là. Voilà. Donc, j'ai découvert la profession un peu comme si j'étais dans les coulisses. De cette
ça
dernière.
Ça n'existe plus, ça, hein, parce que je crois que c'est Aurélia UO, je sais plus.
UO, ouais.
UO, que j'ai interviewé qui maintenant est à la. Qui travaille toujours à l'ordre pour les services pro bono de l'ordre. Et elle explique qu'elle a aussi commencé.
Comme assistante en déontologie,
mais comme avocate.
Ouais.
Et elle me disait que maintenant, ça n'existait plus que parce qu'elle avait le statut d'avocat.
Ouais.
C'est pas juste qu'elle travaillait comme salariée à l'ordre,
ouais.
Elle avait le statut d'avocat.
C'est ça.
Pour l'ordre, et du coup, elle faisait ça aussi.
J'avais le statut d'avocat première année.
Ouais.
J'étais rémunérée au tarif UJA de l'époque. Mmh. C'était en 2005. Et effectivement, je crois que ça n'existe plus sous cette forme. Néanmoins, le service de déontologie a encore quelques avocats missionnés à son service et je crois bénéficie de PPI pour les assister. Je crois avoir compris que ça se passait comme ça.
Bon, en tout cas, c'est intéressant un début de carrière qui commence finalement au sein de au sein de l'ordre, au sein des institutions de la profession, et donc
Ben, ça m'a permis de rencontrer, par exemple, je me souviens qu'un membre du conseil de l'ordre m'a aidé à faire mon CV, m'a relu ma lettre de motivation, parce que l'idée n'était pas de rester plus d'un an, en fait, c'était pas des postes qui étaient durables. Mais c'était pour moi l'idée de mettre un pied dans le milieu aussi et de pouvoir ensuite chercher une collaboration. Et en réalité, ça a été pour moi l'occasion de présenter la conférence du stage, parce qu'un jour, j'ai rencontré un autre avocat qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire puisque tu vas pas rester toute ta vie assistante en déontologie ?» Et j'ai dit « Mais moi, mon rêve, ce serait d'être pénaliste. » Et il m'a dit « Bah oui, mais il faut passer la conférence alors. » J'ai dit « Ah bon, d'accord. » Et bon, évidemment, ça m'impressionnait beaucoup trop pour que j'envisage même d'y aller. Je crois que ma vie a été pleine d'impressions. Et en réalité, c'est peut-être un petit peu magique ce que je vais dire, mais j'ai vu le sujet, le féminin de maître est-il maîtresse, affiché à l'entrée de l'ordre, un matin en rentrant au travail. Et je me suis dit, j'ai pas le droit de ne pas le prendre, celui-là, parce qu'il est pour moi. Et j'ai fait un discours dont je crois pouvoir vous dire qu'il était beau.
C'est bien, voilà. Il faut savoir s'auto-congratuler.
Voilà, parfois. Ouais.
Mais oui, non, je suis tout à fait pour. Et qu'est-ce que vous avez dit dans ce discours ?
Dans ce discours, j'avais dit que les mots, c'était le poids des habitudes et de l'histoire, que c'était le thermomètre des regards, et que avant de changer les mots, je voulais qu'on change les regards et que les mots viendront entériner ces derniers. Après, l'idée à la conférence, c'était de plaider la négative ou la positive. Donc, je m'étais inscrite dans la négative et dans mon discours, j'étais à la fois une maîtresse et cette maîtresse souffrait d'être une femme gelée dans le regard des autres. Et à la fin, je veux devenir maître. Voilà. Comme George Sand, quoi.
Ouais. Voilà. J'ai deux questions. La première, c'est comment vous vous sentiez quand vous étiez assistante à l'ordre ?
J'étais très heureuse. Je m'entendais très bien avec le personnel de l'ordre. J'étais toute jeune, donc tout le monde était plutôt sympathique avec moi. J'ai appris beaucoup et j'ai rencontré quelques avocats, notamment quelques membres du conseil de l'ordre ou autres, qui étaient contents de me donner des conseils. Voilà. Donc c'était. Et puis je travaillais dans un endroit magnifique. Enfin, mine de rien, j'ai vu la place Dauphine sous les quatre saisons, quoi. Enfin, quand votre environnement est beau, ça rend aussi la vie belle, quoi. Ça compte.
C'est sûr. Non, mais j'étais curieuse parce que c'est un début atypique d'exercice.
Et puis je m'inscrivais dans quelque chose qui n'était pas pour la vie, puisque ça ne devait durer qu'un an. Donc c'était une expérience. Alors c'était pas rassurant, mais j'étais suffisamment jeune pour vivre ça. C'est-à-dire que bon.
Cette temporalité.
Voilà. Et puis voilà, je m'étais dit, Clotilde, tu connais pas grand monde dans ce milieu. C'est quand même là où tu peux faire le mieux, quoi.
Bon. Ouais. Et vous avez été élue.
Eh ben en fait, j'ai eu la conférence.
Ouais.
Et ce qui m'a permis évidemment de trouver une collaboration rapidement, enfin non, de me faire virer d'une première collaboration tout de suite dans les trois semaines.
Ah non, mais ensuite on va en parler. Ah. Donc vous êtes élu à la conférence.
Oui.
Vous faites la conférence dans le sein d'une collaboration ou juste la conférence?
En fait, je suis élu, enfin pendant que je passe le concours, je cherche une collaboration pour l'année qui va suivre. Je suis a priori embauché par une consoeur qui fait du droit du travail dont je ne dirai pas le nom. Et comme je me rends compte que je passe la conf et que je commence à gagner au deuxième tour, je l'appelle pour lui dire, enfin, je suis secrétaire de la conférence, il faut que vous le sachiez. Et je n'arrive pas à la voir. Voilà, elle est tout le temps injoignable. Je finis par avoir la conférence, troisième tour, et donc j'essaye de l'appeler encore. Et le jour premier de mon embauche où elle m'accueille au cabinet, elle me dit « Ah, c'est formidable, on va pouvoir mettre ça sur le papier en tête. » Et je lui dis « Ben oui, mais ce que ça signifie aussi, c'est que je vais consacrer un temps à la défense des plus démunis dans les affaires criminelles. Je vais être commise d'office dans les affaires criminelles et que par conséquent, j'aurai peut-être moins de temps disponible pour vous. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'essaye de vous joindre depuis un moment, et pour laquelle, si vous le souhaitez, on peut mettre en place un mi-temps, ou si vous n'êtes pas contente, on peut, voilà, aussi s'arrêter. Enfin, je veux pas vous mettre en difficulté. Et là, ça a commencé tout de suite par, mais en fait, vous êtes d'une malhonnêteté intellectuelle incroyable avec moi. Et je dis, mais pas du tout. Simplement, je découvre un peu tout ça comme vous. Et donc, ça s'est très mal passé.
Ça a quand même duré 3 semaines.
Ben, en fait, pendant 3 semaines, elle m'a expliqué à quel point j'étais pas faite pour être avocate, que je ne savais pas, je savais très bien écrire en droit, mais que, enfin, elle me reprochait en fait le manque d'expérience que nécessairement je n'avais pas et qu'elle ne pouvait pas ignorer. Et donc je lui ai dit, écoutez, je suis là pour apprendre, bien évidemment. Si je peux revoir ma copie 5 fois, il n'y a pas de difficulté. Simplement, si vous me mettez systématiquement en échec, en fait, c'est facile puisque nécessairement, on va essuyer les plates de mon inexpérience. Enfin, nécessairement, je suis godiche d'être neuve. Voilà. Donc, voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une maltraitance qui s'installait. Je me suis arrêtée de manger d'un coup et en fait comme 3 semaines c'était suffisant pour moi en termes de maltraitance, je suis allée la voir, je lui ai dit écoutez en fait on va s'arrêter là parce que il n'est pas question que ma vie soit malheureuse en fait. Et là elle m'a dit mais vous ne serez jamais une bonne avocate même en pénal. Et je lui ai dit bah, c'est bien la raison pour laquelle je ne vais pas travailler avec vous. C'est parce que je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui me dit ça. Et donc je lui ai rendu ses clés. Et je crois que j'en ai été très heureuse, bien qu'éprouvée, hein, parce que c'était voilà. Et j'ai trouvé une collaboration ensuite auprès d'un confrère qui était
rapidement.
Ouais, voilà. Oui, bah oui, parce que pour le coup, j'étais secrétaire de la conférence, okay. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai trouvé une collaboration auprès d'un confrère qui lui se présentait au Conseil de l'ordre et donc qui, je pense, s'est dit que ça pourrait servir dans le cadre des élections. Enfin, voilà. Et qui m'a embauchée et qui était plutôt... Voilà,
ça, donc pénaliste cette fois.
Qui m'a mise au pénal beaucoup, oui. Ouais.
Et alors ? Là, une année alors, là, à cheval entre année, cette collaboration
oui,
et la conférence ?
Exceptionnelle. Et là, j'ai vécu mes premières assises, mes premières mises en examen, mes premières prisons... mes premiers dossiers complètement dingues et j'ai vécu surtout comme j'étais un peu neuve finalement
c'est
pour une secrétaire de la conférence
que...
j'ai été complètement épaulée par Laure Hennick, par Dorothée Bizakia-Bernstein qui était dans ma promotion, Laure Hennick premier secrétaire et Dorothée qui était 12e et en fait ces filles-là, Laure elle avait 10 ans de parcours de pénaliste, elle avait bossé chez Françoise Cotta, Dorothée elle était chez D'Artevel, elle faisait du pénal des affaires puis ensuite chez Schnerb, Olivier Schnerb pardon. Des pénalistes.
Voilà,
voilà.
Je comprends que c'est
pardon,
des pénalistes.
C'est des
non,
pénalistes.
Voilà. C'est très bien de le dire. Je suis pas familière de ce milieu, mais je mets toujours les références en note des épisodes.
Oui, non, mais
ça contribue à la culture juridique de tout le monde et c'est très bien.
Et à l'accessibilité de ce qu'on dit. Et en fait, ces filles-là m'ont complètement aiguillée, épaulée, parrainée. En fait, j'ai eu des maîtresses de stage, voilà, dont je rêvais en fait et que j'avais pas. Et si bien que j'ai appris d'abord à grande vitesse, parce que mine de rien, quand vous êtes sur le terrain et que l'expérience vous force, ça fait grandir beaucoup et plus vite qu'ailleurs. Mais en plus, j'étais épaulée par des consoeurs de qualité, quoi, qui manquaient pas par coup de SMS ou autre de m'envoyer tous les trucs que j'aurais pu louper. Voilà.
Et vous évoquez ces deux consoeurs, première et deuxième secrétaire de la conférence. Quid des confrères élus ?
On était une promotion rarissime en ce sens qu'on était 5 filles et 6 garçons.
Beaucoup
non,
trop.
Je me trompe. 5 filles et 7 garçons. Ouais, mais voilà, c'était suffisamment exceptionnel pour que ce soit noté. Et puis d'ailleurs, on ne manquait pas de nous le faire savoir en disant bah, soyez à la hauteur de ce que vous bénéficiez probablement d'une promotion aux femmes. Tâchez de ne pas vous crêper le chignon.
Mon Dieu,
ça m'a horrifiée. Bon, et j'ai été avec Delphine Jaffard, Emmanuel Rona, voilà, Dorothée, moi et Laure, et on a vécu une année exceptionnelle. Voilà, avec les garçons aussi, bien évidemment. Hein. Il y avait Bon, je ne sais pas s'il faut les citer.
Non,
bon,
non, non, mais c'est. Mais... Je demandais juste. Je me demandais si ce mentorat par la première et la douzième secrétaire de la conférence avait été un mentorat de femme pour la troisième femme.
Ça s'est fait par amitié.
Ça
s'est fait par affinité, par amitié. Ça s'est fait comme ça. Ça ne s'est pas pensé autrement. C'est aujourd'hui, 15 ans après, que je peux vous dire, mais en fait, c'était mes maîtresses de stage, quoi. Voilà, on s'est épaulés, on s'est, parce qu'il y avait une adversité. Parce qu'on passait facilement par-dessus mon épaule, pour dire bonjour ou pour discuter sérieusement, parce que j'avais ni cheveux blancs, ni grosse voix, quoi.
Ouais, et puis en plus pas d'expérience en pénal, parce que mine de rien, du coup, une première collaboration à l'ordre.
Ah oui, 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 j'avais clairement. Je connaissais mes textes mieux que les autres, ouais. Parce que j'ai le côté instit consciencieuse, c'est-à-dire que à force de savoir ce que je ne sais pas, je m'interdis de ne pas être un minimum au courant de ce pourquoi je vais travailler. Donc je travaille mes textes avec une grande rigueur et une conscience quasiment scolaire, quoi.
Ouais. Voilà. C'est tellement la grande qualité des professionnels, eux, je pense, de surcompenser par la connaissance et la rigueur scolaire et tout ça.
Je faisais pas confiance à mon panache et à ma culture G pour faire juste des citations et m'en sortir en plaidoirie. Mmh. L'idée, c'était de connaître mon dossier et mes textes, parce que je pense que ça force le respect quoi qu'il arrive.
Mmh. Et en parallèle, la collaboration, donc ?
Et en parallèle, une collaboration. Bon. Une collaboration, mais dans laquelle je suis très libre. Lui était en campagne, moi j'étais secrétaire de la conférence. Une collaboration plus libre que celle qui existe en vrai, probablement.
Mmh. Voilà. Avec du contenu, quand même, je veux dire, avec...
Ah oui, oui, il y avait du travail, et je travaillais en autonomie totale, parce que lui, il était tellement candidat qu'il avait du mal à gérer ses 300 mails par jour et autres. Enfin, voilà, bon.
Ouais. Mmh. Et ça fait quoi d'être parachuté collab d'un candidat qui est un peu absent?
Je me débrouillais bien,
peut-être que
en fait.
Ça vous allait, en fait.
Ça m'allait très bien. En fait, ce qui m'allait très bien, c'était justement de pas avoir le sentiment d'avoir un patron. Mm. En fait, je crois que je suis pas faite pour ça. J'ai vraiment une indépendance à moi. Je me corrige, je me réinterroge, je m'oblige. Je suis consciencieuse, mais, je supporte mal l'autorité si elle est mal placée. Et comme ça arrive dans la vie, j'aime l'indépendance. Mmh. Voilà.
Et du coup, quand la conférence termine, vous continuez cette collaboration un petit peu ?
Non. En fait, pendant l'année de la conférence, je tombe enceinte.
Ah.
Donc, Voilà. Et la... Je peux pas tout raconter, mais j'ai fini par quitter rapidement la collaboration à mon retour de congé maternité, parce que j'avais besoin de me sentir encore plus indépendante et encore plus grande. Voilà.
Oui.
C'est moi qui suis partie. Hein,
Oui. Non,
voilà.
Mais
non, mais j'ai pas souffert de discrimination par rapport au fait que j'étais enceinte ou autre. Enfin, c'est pas du tout ce que je voudrais sous-entendre, vu que je ne raconte pas. Voilà.
Ça, on comprend quand même que ça a été un moment de réflexion et de relation qui invite peut-être à reprendre son indépendance. Et donc, reprise d'indépendance et là, installation ?
Non, en fait, Laure, ma première, m'embauche. Ma maîtresse de stage reste ma maîtresse de stage. Elle m'embauche à deux jours par semaine parce que elle venait de monter sa structure. Donc, elle m'a dit voilà, moi, j'ai pas tellement les moyens de faire mieux à ce moment-là, mais viens et tu développes ta clientèle. Et donc, j'ai été la collaboratrice de Laure pendant quelques années.
À deux jours par semaine.
À deux jours par semaine. Et puis avec mes dossiers à moi. Et je développais.
Et ce développement, comment il s'est fait ?
Radio prison. Vous gagnez un dossier, vous gagnez la respectabilité de l'entourage qui vous envoie des dossiers. Et puis ensuite, vous avez un peu l'âge de vos clients aussi, qui commencent à savoir que vous pouvez faire un peu autorité dans le sujet. Voilà, ça marche.
Bouche à oreille. Hmm ouais. Et en parallèle, une collaboration avec quelqu'un avec qui, pour le coup, ça se passe bien.
Et en parallèle, une collaboration avec une avocate d'immense qualité, enfin, je veux dire, bon, qui m'apprend énormément, avec laquelle je vais plaider tous les jours, qui lâche pas un morceau. On a vécu quelque chose de très fort humainement parlant, et du coup, c'est vrai que j'ai appris, j'étais aussi aux côtés de Karine Bourdier, qui était l'associée de Laure déjà. Voilà, j'étais avec la crème en fait des avocates pénalistes qui arrivent et qui ont plus besoin de s'excuser quoi.
Ça s'est terminé parce que
j'ai eu mon deuxième enfant et manifestement à chaque fois que j'ai un enfant j'ai une envie d'indépendance supplémentaire et j'ai dit alors il faut que maintenant je me lance sans toi parce que j'ai besoin de plus avoir de couverture. Et puis tu sais quoi, après on sera associés mais à égalité.
Ouais.
Et donc sur le moment elle a eu le sentiment que la quittait. Je me suis lancée toute seule, je me suis forgée ma confiance, mon indépendance supplémentaire. Je voulais plus de maîtresse de stage, et puis ça c'était en 2011 et en 2015 et ben en réalité on a monté notre cabinet avec Laure Hennick, Karine Bourdier. Et puis Dorothée Bizakia qui est venue nous rejoindre.
Donc
le cabinet Setback Avocat. Ouais, on a un cabinet de femmes pénalistes dont je crois pouvoir dire qu'on est qu'on marche bien quoi, qu'on est un beau cabinet de pénal.
Génial, félicitations. Vous n'êtes pas la première à relater. Allez-y, vous pouvez boire votre café.
Merci.
En plus, il va être froid après. Vous n'êtes pas la première à me dire qu'il y a eu un besoin de s'affranchir, de partir, de développer sa propre structure pour revenir et avoir une association qui soit une vraie association à pied d'égalité et donc quelque chose de plus sain en termes de relations d'associés.
Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, Laure, elle, quand je suis tombée enceinte, je l'ai mise un peu en difficulté parce que c'était une toute petite structure et donc je l'ai vue souffrir un peu du fait d'être que je sois enceinte et en même temps c'était ma grande amie donc évidemment elle s'est bien interdite de m'en vouloir mais je voyais bien qu'en fait je la mettais un peu en difficulté et il y avait comme quelque chose qui m'a gênée et je me suis dit maintenant on sera associés enfin je veux vraiment cette égalité là pour qu'on ait les mêmes intérêts tout le temps.
Et donc vous revenez association
Et donc en 2015 je fais mon troisième bébé
et là je me repose des questions
et là je monte mon cabinet avec les filles voilà.
Sachant que tout au long de ce parcours vous vous posez tous les ans la question est-ce que je veux redevenir avocate.
J'ai réinterrogé jusqu'en 2013, c'est ça. Et en 2013, je ne peux plus renouveler la disponibilité pour convenance personnelle d'un an. Donc, il faut choisir cette fois-ci pour de vrai.
Est-ce qu'il y a eu des doutes pendant ces 10 années de réélection ?
J'ai toujours eu des doutes de l'avenir, mais finalement, je ne voulais pas lâcher mon présent. Je me disais j'ai un mari qui est urgentiste qui est beaucoup de garde parfois les nuits et le week-end moi je travaillais comme une dingue j'avais 3 enfants et je me suis dit on va faire comment en fait et puis après je me suis dit mais il n'est pas question que ce soit à moi de gérer le conflit et la gestion vie privée, vie personnelle en fait il n'est pas question de ça et pourtant il avait toutes les excuses du monde parce qu'en fait, lui, de fait, son travail, c'était le soir et la nuit et c'était pas juste pour m'empêcher. Enfin, je veux dire, c'était... Et en fait, on se débrouille, quoi.
Et alors, comment vous faites ?
Je saurais pas vous dire...
Comment vous avez fait et comment vous faites encore ?
Quand il est de garde, je me débrouille pour être à la maison à laquelle il faut rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants.
C'est quelle heure ?
19h30. Je me débrouille parce que voilà. Et quand il n'est pas de garde, eh bien, je lui dis, tu te débrouilles. Voilà, tu te débrouilles, tu fais. Enfin, je lui dis pas d'ailleurs qu'est-ce que c'est que ce que je suis en train de vous dire. Il se débrouille, il a pas besoin de moi, et voilà. D'ailleurs, là, je me projetais comme possible vice-bâtonnière, puisque je me présente. Et en fait, ce qui a achevé de me convaincre, parce que j'y serais pas allée autrement, c'est que si je suis élue, il m'a dit qu'il prendrait une disponibilité à la PHP.
Oh.
Et ça m'a, voilà. Je me suis dit, ouais, c'est classe, quoi. Parce que moi, je l'ai laissé à l'hôpital. Il a grimpé, il a, je sais pas comment dire, enfin, il a beaucoup donné pour la PHP. Il donne encore beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis tapé pas mal de week-ends toute seule. Et bah, il sait rendre, en fait, aussi. Donc, c'est chouette. Et il m'a toujours porté, quoi. Enfin, lui, il me voit. Il m'a toujours porté.
Donc, un double challenge, ce bâtonnat, c'est-à-dire.
C'est pas
un challenge à plein point de vue, mais
Cas, le fait qu'il m'ait proposé ça, d'abord, c'était une question de faisabilité concrète pour moi, sans laquelle j'y serais pas allée. Et en plus, j'ai trouvé que cette proposition-là était juste et qu'elle valait. Et donc, que c'était. Voilà.
Bravo pour cette articulation. Et donc ces trois enfants, au fur et à mesure de cette carrière pénale et ce cabinet de femmes pénalistes,
bah, ils se débrouillent, hein,
ils n'ont pas à s'excuser.
Je leur paierai une psychothérapie plus tard. Non, je rigole.
Non, mais alors, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Oh mon Dieu.
Non, je sais, j'ai bien compris. Non, c'est moi qui blaguais.
Non, c'est pour, ouais. Enfin, voilà, c'est ce parcours de vie qui se dessine comme ça, quoi.
Ouais. Mais en fait, on se débrouille. En fait, on se débrouille. Je veux dire, j'arrive à aller aux assises, j'arrive à être membre du Conseil de l'Ordre, j'arrive à les élever, à les regarder. Voilà. Parfois, je suis imparfaite comme les autres, en fait, et pas moins et pas plus. Voilà.
Les élections au Conseil de l'Ordre. Quand, comment, pourquoi, quel était le.
Je suis d'abord allée au Conseil national des barreaux.
D'accord. Et donc, pourquoi ?
J'étais chez Femmes et Droits, parce que ma question, c'était celle de la place des femmes au sein de la profession.
C'est bien, ça articule avec une autre question que j'avais. Quid du militantisme féminisme après, voilà. Ni pute ni soumise, ouais. Comment est-ce que vous avez continué ?
J'étais chez Femmes et Droits, j'étais au club des avocates pénalistes. Je travaillais pour des associations de défense des femmes qui sont victimes de violences. Voilà. Et du coup, Mathilde Joanneau, qui présidait Femmes et Droits, et à l'époque Dominique Attias également, m'ont proposé de me présenter sur la liste pour le Conseil national des barreaux. Et je crois que je sais prendre ce qu'on me propose, en fait. J'aurais pas interrogé cette éventualité si on me l'avait pas proposé, mais néanmoins on me l'a proposé, je me suis dit bah oui, bien sûr, et j'ai été élue, et j'ai par ailleurs eu l'immense honneur et chance de présider la toute première commission en charge de l'égalité professionnelle au sein du Conseil national des barreaux, qui naissait en 2015 en même temps que mon fils, le dernier, et de lutte contre les discriminations. Et j'ai travaillé également au sein de la commission Liberté et Droits de l'Homme. Et alors là, j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré. J'ai eu le sentiment de faire de la politique, mais avec le ton de la liberté des avocats. Voilà. J'ai eu l'impression de pouvoir porter une parole auprès des pouvoirs publics, des institutions, de débattre. Enfin, ça m'a nourri complètement, quoi. Et ça nourrissait en plus mes plaidoiries sur le terrain. Sur la probation, sur la contrainte pénale, sur le fait qu'on ne soit pas obligé de penser au tour carcéral, sur la façon de se comporter dans les cabinets pour lutter contre les discriminations, sur les biais qu'on avait tous et toutes, même nous, les bien-pensants.
C'est sûr.
Voilà, de pas dire c'est les autres, mais de dire c'est nous, sur la façon de devoir nommer les problématiques, parce que mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, comme disait Camus, et je l'aime bien. Voilà, ça m'a vraiment porté. et ça m'anime beaucoup. Et dans le prolongement de ce mandat, j'ai été très fière. J'ai mis en place, pas moi toute seule, hein, c'est un travail de groupe évidemment, mais la charte de responsabilité sociétale des cabinets d'avocats avec un outil autodiagnostic. C'était sur le modèle d'une association bien connue dont je n'ai plus le nom là. Je suis désolée.
C'est pas grave, vous m'enverrez.
Ouais, parce que qui luttait contre les discriminations et qui mettait ça en place. Bon bah j'ai décliné ça avec le groupe de la commission pour les avocats. J'y ai cru beaucoup, malheureusement ça n'a pas été assez communiqué, c'est
J'étais
pas assez
sur
investi.
Le point de vous demander quid de l'effectivité des mesures.
C'est un outil merveilleux, c'est un outil auquel je crois encore, c'est un outil que j'aimerais qu'il soit développé. C'est un outil qui rentre de plus en plus dans les cabinets quand même, parce que en fait il y a plus une économie et un opérateur économique, et en tout cas je l'espère, qui veuille travailler avec des cabinets ou des structures qui respectent pas un certain nombre de valeurs. On est, je crois, à l'heure économique éthique et responsable. Voilà. Donc en fait, si on va pas dans ce sens-là, on se plante de tournant. Et en tout cas, moi, je veux le porter. Donc voilà, l'ordre doit être promoteur de ces outils-là. Ils existent. Ils sont accessibles sur le site du Conseil national des barreaux et à l'ordre, et d'ailleurs dans le cadre du mandat qui serait le nôtre si on était élu, je voudrais vraiment accompagner les cabinets qui veulent faire vivre ça et puis surtout mettre à l'honneur les cabinets qui le font. Mmh. Voilà, porter encore un peu plus, voilà, poursuivre le travail mené depuis le début et c'est pas grave si ça met un peu de temps, voilà, on fait l'important des petits pas, mais l'important c'est d'avancer.
Ouais.
Voilà.
Et donc ce que je retiens de ce mandat au CNB, c'est et ça rejoint complètement ce que disait Clarisse Bérébi, qui était ma 7e invitée, donc ça fait. Il y a 70 épisodes, quand elle évoquait son propre mandat au CNB, et elle disait que ça avait été un lieu d'immense plaisir intellectuel.
Ah ouais. Ah ouais, vraiment.
Parce que du coup, beaucoup de réflexions.
Ça m'a vraiment nourri, ça m'a fait grandir, ouais. C'est une autre parole plus politique et plus sociétale que. Puisqu'on est plus dans les questions d'intérêt généraux, mais je veux dire travailler avec la mi-prof sur la prescription des crimes sexuels commis contre les mineurs, travailler sur les cours d'assises spéciales, travailler sur la surpopulation carcérale, le sens de la peine, travailler avec le défenseur des droits sur la façon dont les professionnels du droit sont désignés en matière de handicap, et nous le sommes nous aussi en matière de handicap, travailler à l'accessibilité du tribunal judiciaire. Voilà, et de l'ordre également, enfin bon, tout ça, ça me porte, vraiment.
Et donc après, l'ordre.
Et dans le prolongement de ce mandat au Conseil national des barreaux, j'ai voulu aller à l'ordre, effectivement, pour poursuivre un peu ce type de mission et d'engagement.
Mais sachant que ce que je comprends, pareil, de personnes qui ont fait les deux, c'est que c'est pas du tout la même posture. C'est-à-dire que là où le CNB est très dans une réflexion intellectuelle de fond, prospective, etc., l'ordre est vraiment quand même plus dans l'administration de l'ordre au quotidien,
c'est
les
plus
règlements
du terrain.
C'est plus du terrain,
ouais.
Voilà.
C'est plus du terrain. On accompagne des confrères qui vous appellent au secours. On les rencontre. On gère les affaires administratives, c'est-à-dire on rencontre les confrères qui sont dans des difficultés financières Et là, vous découvrez Zola, vous découvrez Balzac, en disant, tiens, c'est 2020, tiens, c'est encore là. Finalement, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Alors, si, parce qu'on met en œuvre sur le terrain les principes pensés plus haut. Et finalement, du coup, alors c'est du coup beaucoup plus imparfait, beaucoup plus bordélique d'une certaine façon, puisque quand on est sur le terrain, c'est toujours plus... on essuie toujours les imperfections du réalisme, en fait, de la réalité, pardon. Donc, c'est peut-être moins satisfaisant parce qu'on est moins dans la maîtrise intellectuelle, mais plus dans l'action. Mais finalement, on s'y colle, quoi. Et ça rend humble.
Ouais.
Parce que quand on voit qu'on est plein de bonnes intentions, qu'on essaye d'être un peu sur tous les fronts, mais que du coup, on fait avancer que des toutes petites choses et que ça avance pas si vite, ça rend humble, hein, vraiment, clairement. Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression à la fois d'avoir réussi mes mandats en ce sens que j'ai bien travaillé et je suis fière de ce que j'ai fait. Et puis, je crois avoir vraiment beaucoup travaillé. Enfin, mais c'est jamais assez, en fait.
En parallèle, du coup, vous êtes devenu associé en 2015 de ce cabinet.
Oui.
Du coup, là, c'est un autre travail.
Oui, complètement.
Alors, du coup, entre les deux, ce que je comprends, c'est que vous avez été à votre compte.
De 2011 à 2015, j'ai été à mon
solo.
Compte toute seule.
Et alors, voilà. Déjà, cette expérience de solo-solo. Sachant que ça partait d'un besoin de. Voilà, maintenant,
de
on
me faire
la
confiance encore plus,
quoi. Là,
je lâche la couette.
Exactement.
Ben, ça a été une très belle expérience. Et j'ai encore grandi, en fait. J'ai encore appris. Et puis, j'ai appris à peut-être me faire confiance.
Vous avez le souvenir de moments ou de choses, de déclics que vous avez eu là-dessus, sur le fait de vous faire confiance de...
Oui, par exemple, j'ai eu quelques cours d'assises où les confrères en face étaient manifestement beaucoup plus expérimentés et avaient des attitudes un peu sur d'eux, voire parfois un peu méprisantes. Et au fur et à mesure de l'audience, je me rends compte qu'ils connaissent pas le dossier. Et je me rends compte qu'ils font des citations et qu'ils plaident avec les auteurs, mais qu'ils plaident pas le dossier, quoi. Et là, je commence à me dire... Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure de la répartie que j'ai à l'audience et de la force que j'ai, qui est celle du dossier. Donc, je suis plus en phase avec ce que vont penser les jurés. Et donc, je défends de façon beaucoup plus pertinente. Et puis, je vois aussi un peu le mépris. Donc, ça nourrit quand même chez moi quelque chose de l'ordre d'une forme de bataille, en fait. J'ai du mal avec le mépris d'en face. Et ça me rend assez combative. Ça me fragilise et en même temps, ça me rend combative. Et du coup, en fait, non seulement je gagne bien, mais c'est vrai que je suis sortie de ces cours d'assises en me disant plus jamais. Tu penses que t'es moins bonne que ces gens-là. Plus jamais, quoi. Je t'interdis de le penser. Je me le redis tous les jours parce que, en fait, j'ai toujours peur d'être moins bonne qu'un autre. Mais peu importe, en fait, ces espèces de doutes et cette façon d'être un peu insécure, que je nourris pas non plus parce que c'est aussi une forme de narcissisme à trop s'y complaire. Donc, je trouve ça grotesque. Je vous dis, je prends les compliments de la vie et ça y est, je grandis. Mais en tout cas, cette absence de contentement de soi fait que je rentre pas dans des espèces de recettes faciles, qui me permettent de pas être trop mauvaise, voilà, et de pas être en dessous d'un certain niveau acquis, vous voyez, mais que je réinterroge toujours et que ça m'oblige, quoi.
Mais moi, je pense que c'est une. Alors, bon, je suis en train de lire en ce moment Goliarda Sapienza, un livre qui s'appelle Les certitudes du doute. le doute okay. Me parle.
Voilà. Oui, non, mais par ailleurs, c'est dans la culture des avocats, le doute, en
c'est
principe.
C'est dans la culture des avocats. Bon, et puis indépendamment de ça, le doute me parle. J'ai écrit récemment une newsletter où je parle d'humilité et où je. Cette newsletter. Donc mes newsletters, je les envoie en ce moment toutes les deux semaines, mais parfois c'est toutes les semaines. En ce moment, c'est toutes les deux semaines. Et c'est des réflexions. C'est des réflexions issues de mon expérience personnelle et entrepreneuriale, on va dire. Et voilà. Et donc j'ai écrit cette newsletter sur l'humilité qui m'a amenée, puisqu'en général c'est des réflexions pendant l'écriture, c'est la vertu de l'écriture, à réfléchir à la différence entre l'humilité et la modestie. Et du coup, j'ai moi-même appris que l'humilité était un rapport juste à soi, en tout cas la recherche d'un rapport juste à soi, donc tant dans le manque que dans l'abondance, donc tant dans ses qualités que dans ses défauts, a priori. Là où la modestie est le fait de minoriser ce qu'on est.
Mais vis-à-vis des autres.
Vis-à-vis des autres, ouais. Exactement. Ouais. Pour finalement se protéger de ce que le fait de s'affirmer pourrait provoquer chez les autres.
Oui.
Et voilà. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion. Et j'ai reçu beaucoup de réponses à cette newsletter. Il se trouve que j'ai des lecteurs qui en plus souvent me répondent. Et j'ai reçu pas mal de retours de lecteurs et notamment de lectrices. Et la dernière en date, je l'ai reçue hier, qui me raconte exactement ce que vous êtes en train de me raconter. C'est-à-dire un dialogue entre qui, enfin ce que je sais être comme professionnel, ce que je sais donner, ce que j'observe de ma compétence et de mes retours de mes clients, etc., etc. Versus ce que mes confrères plus expérimentés essayent de me renvoyer pour me déstabiliser.
C'était aussi une perception que j'ai, qui existe indépendamment de leur volonté. Hein.
Oui, peut-être. Bah,
là, il y avait une attitude méprisante très clairement.
Voilà.
Hein, quand je vous...
Mais du coup, et le fait que cette capacité à être conscient de ce doute qu'on a de soi et de le remettre sur la table, sans forcément être dans la complaisance, et ben il a aussi sa vertu de du coup venir alimenter la compétence d'une certaine manière.
Bah oui.
Voilà.
Oui, oui, c'est exactement
C'était
ce que j'étais en train de dire. Ouais.
Un très long détour. Ouais.
Non, mais si, en fait, je...
Et je pense qu'il faut le dire parce qu'il y a beaucoup d'avocates. Il se trouve que je pense que je suis. Je suis écoutée par des avocats et des avocates et voilà, mais celles qui me parlent le plus de ces questions-là sont des femmes. Mmh. Et donc, je pense que ça leur fera du bien de l'entendre aujourd'hui.
Ouais, le problème, c'est qu'on a été un peu élevé à ça, quoi.
Voilà. Et passer cette phase indépendante, du coup, l'association. Et là, c'est encore une autre aventure.
C'est encore une aventure complètement merveilleuse. Alors là, bon, là, moi, je suis très bien. Voilà.
Qu'est-ce qui
on est
qui
parce qu'on est quatre femmes très différentes dans nos tonalités, dans nos personnalités, donc très complémentaires, très amies. On a des liens très forts et je crois pouvoir vous dire très compétentes, voilà, voire même j'en suis sûre. et en réalité, on s'apporte des dossiers, on s'apporte des compétences, on se complète, on se sent forte. Ce cabinet pour moi est un refuge dans un exercice qui est quand même assez violent. Voilà.
J'allais vous demander quel était le projet lors de l'association.
Il était celui qu'on est en train de faire. Voilà.
Donc, de créer
le refuge, c'est pour nous.
C'est de
créer un cabinet fort du nombre que nous sommes, fort de nos expertises à chacune et de nos différences. On est un cabinet totalement dédié au pénal qui se décline dans toutes ses formes. On fait même du pénal de l'environnement. Je travaille des cabinets d'affaires qui font des implantations de parcs éoliens. Je fais beaucoup de pénal par rapport à des élus sur les prises illégales d'intérêts, les conflits d'intérêts, etc. On fait beaucoup de presse, on fait un peu de pénal des affaires, et puis du pénal quoi. Voilà, le sanglant, le drama, le mœurs, voilà. On est bonne là-dedans, on se complète, on s'apporte des dossiers, on s'épaule. Moi en campagne, j'ai toujours, on fait pas un quatre mains, on fait un quatre yeux, quoi. Voilà, on se sécurise, quoi, vraiment. Et puis on a toujours des discussions sociétales au travers de nos dossiers, toujours des discussions psychologisantes. Et puis on échange, et puis on a des vies les unes et les autres dans ce cabinet qui font que on se comprend, on se met à la place de l'autre, et on s'aide, quoi. On s'accompagne, en fait. On est vraiment dans une logique très peu concurrentielle, alors qu'on a des gros égos en plus. C'est assez marrant, quoi. Enfin, quand je dis des gros égos, c'est-à-dire des personnalités marquées. Mais bon, voilà. Là, on vient de sortir, par exemple, on est capable de faire un petit livre à quatre sur la parole. Voilà. On a fait un petit livre, Les 50 règles de l'éloquence, qui vient d'être édité chez Larousse. Bon, ben voilà, c'est beau, quoi.
Et vous avez évoqué beaucoup de domaines d'intervention. Alors, ouais. Sachant que, quand je vous ai demandé comment s'est passé votre développement, vous m'avez dit beaucoup radio-prison, etc. etc.
Et ça, là,
vous
avez plus évoqué... quand j'étais seule.
Voilà. Et là, vous avez évoqué du droit pénal de l'environnement, ouais. Du droit pénal électoral, donc d'autres domaines d'intervention. Comment est-ce que vous l'avez développé?
Je pense gagner en notoriété, en respectabilité, d'abord.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, vous dites plus « je », vous dites « on ».
Mais parce que je pense que le fait que nous soyons en nombre nous a renforcé. D'abord, en tout cas, je pense que c'est plus facile pour moi de dire on est forte ou de dire je suis avec des associés exceptionnels que dire ah non mais moi je suis génial. Donc ça, ça vous aide beaucoup et ça vous rend vachement plus sympa par ailleurs. Bon, c'est plus facile, on a moins de complexes.
Bah là, on en revient à la modestie.
Oui, à la modestie, à se mettre en valeur quand il s'agit d'une équipe, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà, donc c'était peut-être une façon de contourner.
En fait, c'est juste pour comprendre, là, je passe à un aspect très pragmatique de développement de business, c'est-à-dire ces initiatives de développement dans ces domaines qui...
Les unes et les autres, on publie. On publie, alors moi, l'ordre m'a donné une visibilité nécessairement, le Conseil national des barreaux aussi, mais par ailleurs, l'une publie dans, je sais pas, Dalloz, l'autre dans la Gazette du Palais, y en a une qui est à l'Association des avocats pénalistes, enfin on y est toutes, mais il y en a une qui est au bureau. Bon, voilà.
Donc des médias très, très juridiques et très orientés vers les confrères.
Bah oui.
Non mais c'est pas une critique, c'est là c'est une analyse.
Pas que on a Laure elle a par exemple une très belle tribune dans le Nouvel Obs et qui est très lue du grand public. Bon voilà, moi j'ai parfois participé à quelques documentaires qui me permettent aussi d'être visible ou d'être connu. Nos vies associatives font qu'on a nourri un réseau, mine de rien. Donc maintenant, on vient nous chercher sur des sujets sur lesquels on est marqué.
C'est encore une fois ces sujets type droit pénal de l'environnement, droit pénal.
Alors
électoral.
Ça, c'est plutôt les cabinets d'affaires.
C'est plutôt les cabinets d'affaires qui vous ont identifié.
D'abord parce que on a nourri des réseaux, des amitiés, avec des confrères et des consoeurs qui sont dans d'autres domaines que les nôtres. Oui. Et puis comme on est un cabinet que de pénal. D'abord, on n'en a pas 50 000, mais les quelques cabinets qui nous font confiance, parce qu'on a quand même on commence à être un peu connu, en pénal, nous confient des dossiers, sachant qu'on va pas leur piquer leurs dossiers sur tous les autres panels. Et donc, on gère un peu l'aspect pénal des éventuelles difficultés de clients qui sont plus des clients de cabinets d'affaires.
Mais c'est comme on est sur des domaines spécifiques, c'est intéressant que vous ayez identifié.
Oui, alors c'est parce que j'avais fait un DEA droit de l'environnement aussi. C'est-à-dire que.
Et vous l'avez cultivé d'une certaine manière. Ah, vous voyez comme il faut que je creuse pour obtenir.
Ah oui, pardon, non, mais je.
Mais oui, non, mais c'est mon travail, donc c'est pas grave. Mais en fait, je vous fais dire des choses pour les auditeurs, en fait.
D'accord, oui.
Parce que ça fait partie du processus. Oui. Ok, super. Et du coup, maintenant, alors l'engagement associatif, il se poursuit, ce que je comprends.
Oui.
Vous êtes en ce moment, vous êtes active dans quel réseau? Outre la profession.
Je travaille pour une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà. On est un pool d'avocates.
Laquelle ? Enfin, si vous pouvez en parler, hein, mais.
Il y en a trop. Enfin, voilà. Et je soutiens, mais je suis pas membre de l'association, mais je soutiens une association qui s'appelle Droit Pluriel également, en matière sur l'accès à la justice. Pour les personnes en situation de handicap.
D'accord. Et comment est-ce que vous projetez ?
Femmes solidaires. Voilà. L'association de lutte contre les violences faites aux femmes.
Comment est-ce que vous vous projetez dans les années qui viennent ? Sachant que maintenant, c'est fini. Il n'y a plus la réélection annuelle de la profession d'avocat. Comment est-ce que vous
j'ai pas compris votre question, pardonnez-moi, sachant qu'il y a plus la réélection.
Eh ben parce que pendant 10 ans vous avez avez fini par choisir, donc
il a bien fallu, j'ai été mise au pied du mur.
Ça vous a fait quoi d'ailleurs?
Ah, ça me fait un petit truc. Ça me fait un petit truc. Et d'ailleurs, vous voyez, j'étais pas peu émue quand j'ai parlé d'institutrice tout à l'heure, parce que j'ai trouvé que ce que je faisais était beau, parce que j'y ai été très heureuse, et que je suis persuadée que si j'étais restée institutrice, je serais très heureuse. D'ailleurs, je continue à intervenir dans des établissements scolaires sur le cyberharcèlement, sur les injures, sur le sexisme, sur la discrimination. Et quand j'interviens dans les écoles ou dans les collèges, à chaque fois, j'en sors mais remplie, quoi. Parce que je crois que je sais trouver des mots pour les enfants. Voilà, je crois que ça, je l'ai un peu. Et que par ailleurs, les mômes, ils disent les jeunes, ils ont des formules parfois pour vous rendre quelque chose et pour vous dire quelque chose qui vous rend plus intelligent parce que c'est nouveau, quoi, à chaque fois.
Et donc, ça vous fait un petit quelque chose.
Bah oui, c'est un pincement au cœur. Moi, ça a été un renoncement, quoi. Je crois aussi que j'ai une capacité à être heureuse dans plein d'endroits.
Oui.
C'est-à-dire que je peux m'imaginer un avenir qui sera pas celui d'une avocate. C'est-à-dire que je peux imaginer que dans 5 ou dans 10 ans, je fasse encore autre chose parce que ça me permet de trouver que tout ça n'est pas si grave. Voilà, de peut-être me sentir très libre, en fait. Je crois que j'ai besoin de ça tout le temps pour sortir un peu des émotions dans lesquelles je suis prise quand je suis sur le terrain.
Et du coup, comment est-ce que vous vous projetez ?
Comment je me projette ? Bah là, je me projette un peu en vice-bâtonnière quand même, parce que j'aimerais bien être élue.
c'est pour ça qu'on fait campagne. Hein.
Voilà, non, après, je me projette là, pour le coup, dans mon cabinet de pénaliste. Et j'ai envie d'en faire encore un peu plus parce qu'on est en train de prendre quoi.
Vous aimeriez faire quoi de plus pour ce cabinet ?
Qu'est-ce que j'aimerais faire de plus ?
Le rêvez dans 2, 3, 4 ans ?
Dans 2, 3, 4 ans, plus d'argent encore. Pardon de le dire, hein, voilà,
oui,
j'ai pas peur, j'ai pas honte. J'ai pas fait vœu de pauvreté, je le dis. Plus d'argent et j'aimerais qu'on travaille beaucoup auprès d'associations ou sur le terrain sur la parole et sur l'art de la parole qui n'est pas réservé aux hommes, dans lequel les femmes peuvent prendre leur place et qui, à mon avis, est une des premières barrières sociales entre les gens. Et autant je plaiderai toute ma vie pour l'oralité, pour le présentiel d'une certaine façon, parce que c'est quand même la meilleure façon de se comprendre, de s'écouter et donc de faire passer les choses et les idées quand on est un peu les yeux dans les yeux. Mais parfois le langage est aussi une espèce de prison ou de rupture qui peut humilier les autres ou empêcher de s'écouter. Et voilà, donc en fait, travailler là-dessus, c'est déjà lutter contre une des barrières en matière de discrimination, je trouve. Voilà, et ça, c'est un des domaines où je suis pas mauvaise.
Donc un développement du cabinet avec à la fois un développement de l'activité, un développement en termes quantitatifs avec du coup le chiffre d'affaires qui va avec.
Bah oui, oui.
Je me le souhaite, quoi.
Ouais.
Mais non, mais je veux dire, je vous le souhaite aussi, mais ouais. Ça pourrait être. Il y a mille manières d'imaginer le développement de son cabinet et ça peut. Enfin voilà, c'est là-dedans.
Mais j'ai
avec
envie de continuer à aller à la cour d'assises, j'ai envie de continuer à aller. Aux confrontations dans les commissariats, à la brigade des mineurs, déposer plainte avec mes clientes. Ça aussi, c'est une bagarre. Il y a un article dans le code de procédure pénale qui dit que les victimes peuvent déposer plainte avec la personne de leur choix. Et en fait, il est mal connu, il est mal appliqué, et parfois il y a des officiers de police judiciaire qui croient qu'ils peuvent vous dire que non. Et en fait, faut dire sans aucune arrogance qu'on peut le faire.
Et puis alors des refus de plainte, on en voit, enfin en tout cas chez les féministes,
oui, alors ça,
on en voit beaucoup. Ouais. Ça joue d'ailleurs, j'en profite pour demander, ça joue le fait d'être accompagné par un avocat pour déposer des plaintes, ça a un impact sur l'acceptation de la plainte ?
Alors ça dépend le comportement de l'avocat, c'est-à-dire que oui, je pense. Enfin, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je préviens qu'on va déposer plainte, je préviens que je vais venir, et ensuite, je viens avec une grande douceur, parce que parfois, les officiers de police judiciaire se méfient beaucoup de la présence des avocats, comme s'ils venaient empêcher une forme de vérité, alors qu'en réalité, on est soutenant pour la personne qui vient parler. Voilà. Bon.
Donc, vos conseils à un ou une pénaliste qui accompagne une victime
Alors,
dépôt de plainte.
Voilà, c'est d'accompagner avec toujours une grande bienveillance à l'égard de tous les professionnels du droit que l'on doit réclamer en retour de leur part. Mais si vous voulez, après, ce qui est difficile parfois, c'est de mettre la victime en situation conflictuelle qui pourrait s'opérer. C'est-à-dire que si en face on a un interlocuteur du commissariat qui est complètement agressif et qui est très hostile, évidemment qu'on est légitime à s'en offusquer et à s'en indigner. Et en même temps, l'idée, c'est qu'elle puisse déposer plainte dans les meilleures conditions. Donc parfois, on est pris un peu en chantage dans cette espèce d'étau d'injonction de protection de notre cliente et puis surtout de son intérêt. Donc vraiment, on est des êtres intelligents, on est capable de venir avec un grand sourire, sans aucune forme d'arrogance, et peut-être de baisser un peu les choses. Sinon, on appelle un membre du conseil de l'ordre et on fait intervenir, mais en direct. Voilà.
Ok, merci pour ce conseil qui vient compléter les conseils de Maître Eolas sur la garde à vue. Si vous n'avez pas écouté les conseils sur la garde à vue de Maître Eolas, eh bien, allez-y, parce que c'est précieux.
Ouais.
Quelle est votre dernière joie, Clotilde ?
Ma dernière joie ? Oui. Je crois que j'en ai encore. Enfin, je crois que je suis une fille joyeuse, donc elle était sans doute ce matin.
Ok. À quelle occasion ? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ?
Je sais pas. Quand je suis chez moi, j'ai des enfants qui me rendent heureuse. Voilà. Le matin, quand je les regarde se réveiller, je me dis bon sang, quelle est belle ma vie, quoi. Enfin voilà. Et puis je pars au travail en me disant que le seul rituel de ma vie, c'est de prendre ma douche, et que finalement c'est quand même extraordinaire de jamais m'émousser par habitude, quoi. Vraiment, c'est un plaisir.
Alors, avant de poser la dernière question, vous avez beaucoup regardé mes livres.
Ah oui,
et donc,
pardon.
un livre que vous aimeriez recommander en ce moment.
Lola Lafont, Chaviré.
D'accord.
Merveilleux livre. Bon, et il y en a un autre qui sortira en janvier.
De Lola Lafont aussi ?
Non, de Laure et Nick Luyer, chez Flammarion, que j'ai lu en avant-première et qui sera beau. Voilà, je vous le dis clairement.
Okay. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Ma conscience, je sais pas, enfin, qu'est-ce que je porte sous ma robe ?
C'est pas moi qui vais vous le dire.
Un cœur, un corps, une tête. Enfin voilà, et tout ça très rassemblé, quoi.
Merci beaucoup.
Merci à vous.